Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal, Saint Judas était-il un sale traître ?
Salut Marc.
Salut Samuel.
Alors, ça avance ta lecture de la Bible ?
Ouais, et puis avec l'histoire là de l'évangile de Judas, je me suis intéressé à la figure de Judas.
Et alors, qu'est-ce que t'as trouvé ?
Ben, dans les évangiles, on parle quasiment pas de Judas. En fait, on parle vraiment de lui qu'à la fin.
C'est vrai, la première fois où on parle de lui, c'est lorsque Jésus choisit ses disciples. On dit juste que le dernier des disciples s'appelait Judas Iscariote.
Iscariote, c'est son nom de famille ?
Mais non, c'est une information sur sa personne. Alors, c'est vrai, il y a deux possibilités. Le suffixe Iscariote signifie « de Kériote », un endroit qui se trouve en Judée.
Ah, donc Judas habitait Kériote.
Voilà, ça c'est la première possibilité. La seconde, le mot Iscariote, pourrait venir du mot sicaire, du latin sicarius, le porteur de dagues. Et les sicaires, c'était aussi un autre nom qu'on donnait aux zélotes.
Les zélotes, les zélotes ?
Tout à fait, les zélotes, kinim en hébreu de kina jaloux, exclusif, sur la racine kuyin, caïn, caïn, comme dans Caïn de Abel et Caïn. Ce sont les groupes qui combattent le pouvoir romain, ces zélotes. Parce qu'à l'époque, les Romains, ils ont envahi la Palestine, tu te rappelles. Donc ils vont même jusqu'à attaquer leurs compatriotes jugés trop timorés ou soupçonnés de collaborer avec les Romains. Et même jusqu'aux païens qui, pensent-ils, souillent la terre promise par leur seule présence. Et comme tu disais, ça donnera plus tard le terme zélote, quelqu'un qui est zélé, au féminin pour désigner une personne animée d'un zèle religieux fanatique. Puis dans un emploi littéraire, quelqu'un qui pousse le zèle jusqu'à l'aveuglement.
Donc Judas était un combattant de l'envahisseur romain. Et c'est globalement tout ce qu'on sait sur lui jusqu'à la trahison d'ailleurs.
Contrairement aux idées reçues, il n'est associé qu'une seule fois au verbe trahir. Il est en revanche beaucoup plus au verbe signifiant remettre, livrer. Judas est celui qui a livré Jésus. Mais on va lire la Bible, d'abord les évangiles synoptiques, alors on va lire Matthieu chapitre 26.
Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner ? Et moi je vous le livrerai. Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Et un petit peu plus loin.
Le soir venu, il était à table avec les 12. Et tandis qu'il mangeait, il dit : En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Fort attristé, ils se mirent chacun à lui dire : Serait-ce moi, Seigneur ? Il répondit : Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda : Serait-ce moi, Rabbi ? Tu l'as dit, répondit Jésus.
Et un petit peu plus loin ?
Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or, le traître leur avait donné ce signe : Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Et aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant : Salut, Rabbi. Et il lui donna un baiser. Mais Jésus lui dit : Ami, fais ta besogne. Alors, s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent.
Tu vois, Jésus sait qui va le trahir.
Mais il le savait depuis longtemps.
Sûrement, Jésus se rendit compte d'un retournement, Judas. D'après l'évangile de Jean, déjà en Galilée, bien avant les événements à Jérusalem qui devaient le mener à la croix, Jésus comprend ce qui se passait. Jésus répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon ? Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui en effet qui devait le livrer, lui l'un des 12.
Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus a pas éloigné Judas de son entourage ? Moi je l'aurais vite éloigné.
Un des mots que Jésus utilise pour parler de la création du groupe des 12 apôtres pourrait nous mettre sur une piste. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Et on lit aussi dans Jean « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. »
Donc il savait qu'il choisissait celui qui allait le livrer.
Le verbe « choisir » ou « élire » est un mot clé dans l'histoire biblique. Dieu a choisi Abraham, il a élu Israël pour en faire son peuple. C'est donc le choix de Dieu qui constitue le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Ce qui rend l'Alliance inébranlable, c'est que Dieu choisit d'aimer Abraham et ses descendants pour toujours. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, dit saint Paul.
Jésus est Dieu, et les 12 apôtres sont représentatifs d'Israël, comme les 12 tribus.
Oui, parce que Jésus a choisi les 12 comme Dieu a choisi son peuple, et ne pouvait pas renvoyer Judas, même quand il comprit qu'il allait le trahir. Il savait qu'il devait aimer jusqu'au bout pour attester que le choix de Dieu était irrévocable. Les prophètes, en particulier Osée et Jérémie, ont parlé au nom d'un Dieu blessé et humilié par les trahisons de son peuple, et qui pourtant ne cesse de l'aimer d'un amour d'éternité. Jésus ne voulait ni ne pouvait faire moins. Humilié par la trahison de l'un de ses intimes, il ne cessa de lui montrer son amour.
Il dit lui-même quand Judas l'embrasse, « Ami, fais ta besogne !»
En s'abaissant devant ses disciples pour leur laver les pieds, il se fit le serviteur de tous, et de Judas aussi.
Et dans Jean 13, on lit concernant l'annonce de la trahison de Judas, « Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit, et il attesta. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire, « Achète donc ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. » Aussitôt la bouchée prise, il sortit, il faisait nuit. Et c'est tout particulièrement à Judas qu'il donne un morceau de pain partagé. C'est comme s'il lui donnait une petite parcelle d'amour brûlant qu'il puisse emporter avec lui dans sa nuit.
S'il voulait être fidèle à son père, au Dieu qui avait fait choix d'Abraham et d'Israël, au Dieu des prophètes, Jésus ne pouvait faire autrement que de garder Judas près de lui jusqu'au bout. Il aimait Judas, même quand celui-ci était tout entier pris dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, dit Jean. L'évangile dit que c'est au moment de donner son amour à Judas, de l'avoir aimé à perte et sans mesure, que Jésus fut glorifié. Dans la nuit la plus opaque du ressentiment et de la haine, il manifesta le rayonnement inouï de l'amour de Dieu.
Waouh ! Par contre, on peut se poser la question du pourquoi. Bah oui, pourquoi est-ce que Judas a fait ça ?
Eh oui, il n'y a dans les évangiles que deux indications. L'une, c'est l'évocation du diable. C'est lui qui a mis dans le cœur de Judas le projet de le livrer. C'est Jean qui nous le dit au chapitre 13. Mais cela ne rend l'énigme que plus épaisse. Le diable ou le Satan, c'est celui qui s'oppose, qui reproche, qui calomnie. Jésus perçut le ressentiment qui était né dans le cœur de Judas et qui s'y était enraciné jusqu'au point de non-retour. Mais sur le pourquoi, pas un mot, ni même une allusion.
Et l'autre indication dont tu parlais ?
L'autre indication, c'est la référence aux Écritures saintes. Au sujet de la trahison par Judas, Jésus dit « Afin que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. » Et il cite le psaume 41.
Tu veux dire que Judas était destiné à livrer Jésus ?
Non, surtout pas. Il faut bien comprendre quel est, dans les évangiles, le sens de cette référence aux Écritures. Il ne s'agit pas d'un scénario qui déterminerait d'avance le rôle de chaque acteur.
Ah, ça me paraissait bizarre. Tout au long de la Bible, on comprend qu'on a toujours le choix et qu'on est chacun devant ses propres responsabilités.
Citant le verset du psaume « Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon », Jésus n'affirme pas que Judas ne pouvait pas agir autrement, mais que Dieu reste l'acteur principal de ce qui est en train de se jouer.
Tu veux dire que dans la trahison, c'est quand même Dieu qui est à l'œuvre ?
Oui, en un certain sens, si ce que Judas est en train de faire accomplit l'Écriture, c'est que d'une manière mystérieuse, le projet de Dieu se réalise. Dieu accomplit sa parole.
Donc la référence à l'Écriture permet de croire en Dieu même, je pourrais dire, dans la nuit, même quand ce qui arrive est incompréhensible. Cette trahison est incompréhensible, et l'acceptation de la trahison est incompréhensible, mais derrière, c'est Dieu qui agit. Mais bon, si Judas n'est pas obligé d'agir, pourquoi il agit ? Pourquoi est-ce qu'il a trahi Jésus ?
Alors là, tu sais, il y a plusieurs versions qui s'affrontent. Une version dit qu'il l'aurait trahi pour l'argent, par cupidité. Judas a reçu 30 pièces pour livrer Jésus, souviens-toi.
Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. Mais ils dirent, que nous importe, à toi de voir. » Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre. Ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent, « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, comme lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce chant-là s'est appelé jusqu'à ce jour le chant du sang. Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète, et ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix du précieux qu'ont apprécié ses fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le chant du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur.
Pour des raisons politiques?
Tu veux dire des raisons politiques, ça veut dire quoi?
Eh bien, il peut y avoir des raisons politiques à la trahison de Judas. Et oui, n'oublie pas que Judas, c'est un zélote, et il veut obliger Jésus à affronter les autorités. Il attendait un messie politique qui allait renverser le pouvoir romain.
Et bouter les Romains hors de Jérusalem?
Exactement.
Bon, et quoi d'autre comme raison?
Alors pour des raisons mauvaises, tout simplement.
Dans Jean, il est expressément dit que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer. De manière analogue, Luc écrit « Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des 12 ». De cette manière, on va au-delà des motivations historiques, et on explique le fait à partir de la responsabilité personnelle de Judas. Donc c'est lui qui choisit la tentation du malin.
Et oui, une autre raison, ce serait l'accomplissement des Écritures.
Tu veux dire que Judas était au courant dès le départ qu'il fallait que Jésus meure pour ressusciter et pour nous sauver? Tu veux dire qu'il aurait été le seul apôtre à vraiment comprendre qui était Jésus avant sa résurrection et la venue de l'Esprit-Saint?
Moi, j'irai pas jusque-là, mais c'est précisément cette dernière thèse que développe l'évangile apocryphe de Judas. C'est un évangile gnostique. C'est entre autres pour ça qu'il n'est pas reconnu par l'Église.
Ah, d'accord. Bon, mais il y a une autre chose qui me dérange. Judas, c'était un saint.
Saint Judas, priez pour nous. Mais pourquoi tu penses ça?
Bah, Jésus, il avait choisi, c'était l'un des 12.
Oui, mais il l'a trahi.
Oui, mais Pierre aussi, il l'a trahi. Il a renié 3 fois.
C'est vrai, t'as raison.
Et en plus, Judas, il s'est repenti. Je lis. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent.
Judas Iscariote s'est repenti, oui, mais continue à lire.
Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre.
Il s'est repenti, mais il a désespéré de la miséricorde.
Il a désespéré de la miséricorde?
Pierre, après sa chute, s'est repenti et a trouvé le pardon et la grâce. Judas aussi s'est repenti, mais son repentir a dégénéré en désespoir, se transformant ainsi en autodestruction. Tu connais Saint-Benoît?
Saint-Benoît, non.
Ben, la vie de Saint-Judas, si on peut dire, est pour nous une invitation à toujours nous rappeler ce que dit Saint-Benoît à la fin du chapitre 5 de sa règle, qui est fondamentale.
Ne désespère jamais de la miséricorde divine.
En réalité, Dieu est plus grand que notre cœur, comme le dit Saint-Jean. Garde toujours à l'esprit que Jésus attend notre disponibilité au repentir et à la conversion. Il est riche de miséricorde et de pardon.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine.
Jésus est-il mort un vendredi 13 et est-ce que cela lui a porté malheur?